Connaissances et témoignages.
Bonjour Monseigneur, nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble et de Vienne. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Madame.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin Monseigneur. Je sais que les Mayennais vous connaissent bien puisque vous aviez eu la gentillesse de venir à Pomain l'an dernier, en 2015, et vous aviez évoqué l'apparition et la personnalité de l'abbé Guérin. Mais vous êtes vous-même l'évêque d'un autre grand pèlerinage marial, la Salette.
Oui, tout à fait.
Auriez-vous, Monseigneur, la gentillesse de nous parler, de nous rappeler rapidement ce qui s'est passé à la Salette?
Alors, ce qui s'est passé à la Salette, ça s'est passé le 19 septembre 1846. Deux enfants, une fille de 14 ans, un garçon un peu plus jeune, garder des vaches dans la montagne à 1800 mètres d'altitude, et ils ont, après avoir pris leur casse-croûte, ils se sont endormis. Après la sieste, ils se sont réveillés brusquement, se sont demandé où étaient leurs vaches et les ont vues tranquilles, donc ils se sont rassurés. Et à ce moment-là, dans un petit vallon, ils ont vu une espèce de grande lumière, de boule de lumière, et à l'intérieur, ils ont vu une dame assise, la tête dans les mains, en train de pleurer. Et elle s'est levée, les a invités à avancer vers elle, et elle leur a transmis ce message de conversion, d'invitation à la conversion. Effectivement, les gens du coin n'étaient pas très chrétiens ou, disons, avaient besoin de vivre une conversion. On avait pris l'habitude de travailler le dimanche. On allait à la messe que si on s'ennuyait un peu, etc. Et donc la Vierge invite vraiment à prendre au sérieux l'Évangile, disant combien elle intercède et souffre pour son peuple, et annonçant une grande famine, de mauvaises récoltes. Il y avait déjà des signes dans les pommes de terre de l'année ou de l'année précédente, et en même temps disant, s'ils se convertissent, les pierres seront couvertes de blé.
Ce qui est très intéressant, Monseigneur, parce qu'on a souvent tendance à réduire le message Notre-Dame de la Salette à des menaces, ce qui n'est absolument pas le cas.
Non. C'est une invitation à la conversion et une promesse de prospérité si les gens se convertissent. Par contre, effectivement, elle a annoncé la famine, elle a annoncé que les enfants en bas âge mourraient, etc. Effectivement, c'était une période difficile. Voilà, alors après, effectivement, malheureusement, dans ces messages, on brode beaucoup et chacun entend à sa façon, ou bien se réinvente le message. Ça arrive.
Ouais, il y a le message, bien entendu, qui a souvent été interprété, et puis il y a surtout ces fameux secrets donnés à Maximin et à Mélanie, et particulièrement à Mélanie, sur lequel on a beaucoup glosé, trop glosé sans doute, Monseigneur.
Alors moi, mon principe est de dire que c'est un secret qui a été donné aux enfants. C'est un secret, ça veut dire que ce n'était pas pour une révélation publique, ce n'était pas un message public. Donc, d'une certaine manière, cela ne nous concerne pas. Accueillons, prenons au sérieux le message que la Vierge a voulu donner à tous, à travers les enfants, et laissons les secrets à ceux qui, pour lesquels ils étaient dits, c'est-à-dire aux enfants eux-mêmes et éventuellement au pape. Pour le reste, je trouve effectivement très malsain de gloser sur ces secrets que nous ne sommes pas censés connaître.
Et qui, de toute façon, on n'est pas absolument certain de la rédaction du texte de Mélanie. Il a été perdu, elle l'a réécrit des années plus tard. Donc, on a des doutes sérieux sur les termes exacts du secret en question. Mais d'ailleurs, il me semble que Mélanie et Maximin, quand l'évêque de Grenoble, c'était Monseigneur de Bruyard à l'époque, leur a demandé d'écrire le secret, ils s'y sont longtemps opposés. Il a vraiment fallu leur dire que c'était à l'intention du pape Pie IX pour qu'ils se décident à l'écrire, et encore, ils étaient très réticents.
Oui, puisqu'ils savaient que c'était un secret. Alors, je crois que c'est le cardinal archevêque de Lyon de l'époque, je crois le cardinal de Bonal, qui a exigé que les enfants lui révèlent le secret. Et puis, donc, ils l'ont transmis oui, au pape.
Mais
voilà, c'est effectivement, le but n'était pas de révéler ses secrets, c'était des choses personnelles, comme Bernadette a eu elle-même des secrets lors de l'apparition à Lourdes.
Mais nous avons là un aspect qui est très particulier à ces apparitions mariales du XIXe siècle, Monseigneur. C'est que, bon, d'un point de vue chronologique, la Salette n'est pas la première. Il y a eu la rue du Bac
non,
en 1830,
oui.
Il y a même eu C en 1802, bien avant. Mais on n'a pas fait de publicité, pour employer un terme moderne, autour des événements de la rue du Bac. Catherine Labouret est restée à l'abri des curiosités mondaines.
Oui.
Alors que Mélanie et Maxima ont été presque tout de suite livrés à la curiosité publique, en quelque sorte.
Effectivement, ils n'ont pas été protégés et du coup, voilà, ils ont eu des vies assez perturbé, on peut le dire. Et alors, j'avais entendu que du coup, à Lourdes, quelques années plus tard, quand en 1858 la Vierge apparaît à Bernadette, du coup, on fera beaucoup plus attention à protéger Bernadette.
Jusqu'à un certain point, mais il est vrai qu'elle a été beaucoup plus entourée. Alors que Mélanie
voilà.
Et Maxima, il y a peut-être eu le problème aussi qu'au moment de l'apparition du 19 septembre 1846, il n'y avait pas de curé à Corps, qui était la paroisse dont dépendait la Salette.
Voilà,
donc
c'est possible, oui.
Le curé était mort. Et il se peut en fait que le fait que ce soit le maire du village qui ait pris les choses en main ait beaucoup pesé sur la destinée des enfants.
C'est bien possible, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, il y a eu un grand mouvement de conversion. Le père même de Maximin, qui n'était pas très croyant et dubitatif vis-à-vis de... a été très touché par le message de la Salette et par justement l'allusion aussi à une histoire qui s'était passée un an plus tôt que la Vierge Marie a racontée à Maximin, où son père déjà lui avait fait... comment dire, avait montré à Maximin qu'il y avait des dangers de famine en lui présentant un morceau de pain. Il lui a dit « mange, on ne sait pas si on en aura par la suite ».
Et personne n'en avait été témoin excepté Maxima et son père. Par conséquent,
voilà.
M. Giraud avait été extrêmement troublé à l'idée que quelqu'un avait entendu et
voilà.
avait vu.
Voilà, et du coup il a vécu une vraie conversion. Et alors que donc le lieu de l'apparition était difficile d'accès, quand même. C'est lointain, 1800 mètres, eh bien les foules sont montées à pied. Après ça, on a inventé des espèces de bus à chenilles pour monter, avant de créer une route qui puisse permettre d'accéder au sanctuaire.
Mais ce qui est très admirable, c'est que le sanctuaire s'est construit assez vite.
Oui.
Dès la reconnaissance de l'apparition, je crois que c'est 1851, la reconnaissance
oui.
de l'apparition,
oui. Oui.
La première pierre de la basilique a été posée dès l'année suivante, me semble-t-il.
Ça, c'est bien possible, oui, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, oui, ça a été assez rapide, ainsi que bon, la constitution d'une communauté de prêtres diocésains là-haut. Qui,
les missionnaires de la Salette.
Sont devenus voilà, une congrégation religieuse, les missionnaires de la Salette.
La rumeur de l'apparition s'est répandue très vite, avec d'ailleurs des réactions très contrastées. C'est ça qui
oui.
est le plus surprenant.
Oui.
Ce qu'on s'explique mal, c'est cette espèce de passion politique qui s'est déchaînée autour de la Salette, avec même
voilà.
des pressions de la part des autorités civiles jusqu'au ministère de l'Intérieur sur les voyants et sur l'évêque de Grenoble.
Voilà, oui. Ben, vous savez, à Lourdes, quelques années plus tard, il y aura aussi une interdiction, on mettra des barrières devant la grotte, une interdiction de se rendre sur le lieu. Effectivement, ça perturbait un monde politique qui déjà se laissait gagner par des courants laïcistes, disons, enfin, anti-religieux. Et de fait, que la Vierge Marie apparaisse ne faisait que renforcer à leurs yeux la crédulité des gens. Et donc, ça perturbait profondément ce monde-là. Oui.
Mais il est vrai également que, en quelque sorte, la Salette est une première. Je disais tout à l'heure que la rue du Bac n'a pas joui de la publicité. La médaille miraculeuse a eu une énorme diffusion, mais on ne savait pas exactement son origine. Mais
oui.
si on regarde les choses, dans ce cas-là, la Salette est la première apparition mariale reconnue en France depuis celle de Lescure en Auvergne en 1702. Donc
voilà,
on a pratiquement 150 ans pendant lesquels il n'y a pas de manifestation mariale, et on avait dû s'imaginer, même dans un certain clergé qui était peut-être un peu janséniste, on avait dû s'imaginer que les interventions mariales remontaient à un lointain passé quasiment moyenâgeux, que ça ne pouvait plus se
C'est
produire dans un siècle éclairé.
ça. Voilà, dans une époque moderne, oui, tout à fait. Tout à fait, et voilà. Mais la Vierge Marie, bon, qui pour moi, le nombre d'apparitions en France me dit en quelque sorte qu'elle prend très au sérieux son rôle de patronne principale de la France, son rôle de reine de France d'une certaine manière.
Mais c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous qui n'en faites pas de cas, vous aurez beau prier, beau faire. Jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres qui vous en moquez. Alors il y a quelque chose de très moderne à mon sens dans l'apparition et qu'on va retrouver d'ailleurs quelques années plus tard en 1874 dans deux autres apparitions qu'on connaît très peu qui sont celles de Sainte-Bosile de la Sylve dans l'Hérault. C'est cette demande de Notre-Dame de chômer le dimanche.
Oui, de respect du dimanche. Oui, donc c'est tout à fait d'actualité parfaitement. C'est-à-dire que je pense que c'est grave parce que ça enferme la population c'est un refus de la transcendance, c'est un refus d'une ouverture qui puisse permettre de prendre du recul par rapport à la vie professionnelle, au travail, à la vie du quotidien. Et donc non seulement qui permettent une vie de famille, qui permettent des loisirs, mais surtout qui permettent de redonner du sens à la vie humaine, au travail humain, en l'orientant vers Dieu, parce que c'est bien le sens du repos dominical, c'est le jour du Seigneur, le jour donc où les hommes et les femmes sont appelés à rapporter à Dieu toutes les activités, à donner du sens à leurs activités en les orientant vers Dieu, mais aussi où ils ont besoin de se recevoir de Dieu pour vivre leur quotidien. Et donc c'est le dimanche de l'alliance primordiale, on peut dire, de l'alliance des origines et de la nouvelle et éternelle alliance. Et donc je pense effectivement que c'est une journée qui est consacrée à Dieu et que cette consécration à Dieu donne du poids et de l'épaisseur à la vie humaine et aux activités humaines.
Mais il y a d'ailleurs un événement assez troublant qui, si on songe pratiquement 200 ans plus tôt, en 1649, toujours dans votre diocèse, à côté de, on lui a dit, Vinay.
Oui.
La Vierge était déjà apparue à un paysan protestant qui était allé travailler le jour de l'Annonciation, jour chômé à l'époque.
Oui.
Et justement, il avait manqué au repos des jours fériés. C'est ce miracle de Notre-Dame de Lozier. Vous m'informiez, Monseigneur, il y a quelques jours que Notre-Dame de Lozier n'était plus desservie. Mais pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de ce sanctuaire ?
Alors c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est une histoire assez étonnante effectivement. En 1649, où ce monsieur qui était passé au protestantisme veut aller travailler, alors que c'est un jour chômé, sa femme n'est pas contente, mais il y va, il se met à tailler son osier et l'osier saigne. C'est un phénomène qui a été vu, constaté, et comme lui-même a été condamné pour avoir travaillé un jour de fête, eh bien, ça s'est su. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, simplement, donc il me semble qu'en 1657 ou 58, je ne sais plus.
Oui, 7 ans après, ça nous met en 1656, voilà, oui.
Voilà, il est en train de labourer son champ, et puis une belle dame arrive et vient droit sur lui, et il invite lui aussi à vivre une conversion sérieuse, et donc lui disant qu'il allait approcher de la mort, et effectivement, quelques temps plus tard, il est mort, il a eu le temps de revenir au catholicisme, et surtout de vivre cette conversion profonde, de prendre au sérieux les avertissements de la Vierge Marie. Et je crois que c'est cela qui est important. Voilà, un homme qui, à travers le changement de religion, au fond, a pris de la distance avec Dieu et qui est invité à renouer sérieusement avec sa relation à Dieu et à compter sur Dieu vraiment pour entrer dans la vraie vie. Et la Vierge Marie, il l'a écouté d'une oreille un peu distraite et un peu bougonne, jusqu'au moment où elle est partie, alors il a voulu lui courir après et elle a disparu. Mais j'aime bien ce lieu qui reste. Alors, c'est un lieu, heureusement, la basilique est ouverte tous les jours. Il y a une personne quand même qui loge là à côté et qui ouvre la basilique. Et puis pour le 15 août, c'est une belle fête populaire avec donc la messe et puis une procession donc à la chapelle de Bon Rencontre, c'est-à-dire le lieu où la Vierge est apparue à ce Pierre Porcombé.
Il y avait autrefois, je ne sais pas si elle existe encore, Monseigneur, une troisième chapelle qui correspondait à l'endroit où la Vierge avait disparu, Notre-Dame de l'Épinouse.
Notre-Dame de l'Épinouse, qui existe toujours dans les bois, oui, un peu plus loin, et qui existe toujours. Elle était un peu abîmée, mais non, elle est. Je crois qu'elle a été restaurée. Et en tout cas, on y va toujours. Et en général, le 15 août ou le 8 septembre, pour les fêtes mariales, il y a toujours des gens qui, après la messe au sanctuaire, vont à Notre-Dame de l'Épinouse, tout à fait.
Mais ce qui est très touchant, c'est que Notre-Dame de Lozier dit à Pierre Porcombé, vous direz aux populations qu'elles ne sont pas assez ferventes dans la prière, voilà. Et somme voilà. toute, c'est ce que Notre-Dame de la Salette va redire à peu de choses près en développant le discours aux enfants en 1849.
Voilà. Et au fond, la Vierge Marie ne cesse de nous renvoyer à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez. Croyez à l'Évangile. Voilà. Prenez au sérieux. Et soyez vraiment fervents. Il ne s'agit pas de réciter des prières du bout des lèvres et de ne pas penser ce que l'on dit. Parfois, ça m'arrive, moi, de dire aux chrétiens dans telle ou telle assemblée, mais voilà, qu'attendons-nous de Dieu? Est-ce que nous attendons encore quelque chose de Dieu? Et je pense que la ferveur de la prière, c'est cela, c'est l'expression de la foi, la prière, hein, c'est la foi en acte aussi, c'est l'expression de la prière, et le fait que nous attendons vraiment de Dieu, nous croyons qu'il est notre salut, qu'il est notre vie, nous croyons que c'est lui le chemin, la vérité, la vie, c'est par lui que nous atteindrons notre destinée, notre plénitude. Et donc, voilà. Et dans nos souffrances, dans nos pérégrinations, dans nos soucis, eh bien, nous pouvons nous tourner avec confiance vers lui.
Mais c'est là, Monseigneur, que nous retrouvons notre message de Paumain. À la Salette, Notre-Dame dit, le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. Et à Paumain, elle va s'écrier, elle va écrire, mon fils se laisse toucher. Voilà. C'est donc la prière, c'est bien la prière qui a désarmé le bras du Seigneur.
Oui. Mais priez mes enfants, oui, dit le message de Paumain, priez mes enfants. Voilà, c'est bien, effectivement, c'est la prière, c'est cette relation filiale à Dieu, une prière fervente, une prière confiante, une prière qui soit vraiment l'expression de notre foi. Et je pense que pour notre temps, ces messages sont profondément d'actualité. Toute la crise qu'a traversée l'Église, toutes ces dernières années, c'est une crise de la foi. Profondément, c'est une crise de la foi. Et nous avons à demander la grâce de retrouver vraiment la foi. D'autant plus dans un monde sécularisé qui attend de nous. Je pense que beaucoup de gens attendent de nous de voir si nous sommes des vrais croyants. Si nous rendons présent par notre foi, si nous rendons Dieu présent d'une certaine manière et d'une certaine manière visible à notre monde.
C'est bien toute l'actualité des messages des apparitions de Notre-Dame, tout au long du XIXe siècle. Voilà. Messages qui s'adressent à la France et au monde, parce qu'il ne faut pas s'imaginer. Je pense qu'il y a beaucoup de pèlerins étrangers à la Salette.
Oui, tout à fait, oui. Cette année, il y en avait d'Asie aussi, qui sont venus, je crois, du Japon.
Parce que je me souviens avoir lu des textes disant en 1858, la Lourde a tué la Salette, mais bien entendu, ce n'est absolument pas vrai.
Non. Et il y a de la place pour tout le monde et les différents sanctuaires attirent du monde. Le fait que la Salette a été très connue mondialement du fait aussi des expulsions de religieux en 1903 qui a fait que, l'expansion des missionnaires de la Salette de par le monde a fait connaître ce message un peu partout. Oui.
Monseigneur, je vous remercie d'avoir eu la bonté d'accepter cette invitation. Nous avions le plaisir d'être avec Monseigneur de Kerimel, évêque de Vienne et de Grenoble. Merci encore, Monseigneur.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.